Alors, comme vous l'avez vu, il y a eu un malentendu sur la répartition des salles et nous sommes obligés de revenir dans cette salle 6. Je vous prie d'excuser ce désordre. Nous resterons, je crois, dans cette salle 6 jusqu'à la fin du cours, c'est-à-dire un peu après Pâques. Alors, je signale d'abord qu'on m'a indiqué deux livres qui ont trait au cours. Le premier, c'est toujours un roman qu'on pourrait qualifier d'idiorythmique, qui met en scène problème d'idiorythmie. Ce serait, je peux pas faire mieux, non? Ce serait Les enfants terribles de Cocteau, puisque là, on met en scène une chambre où les enfants vivent en liberté, d'une façon idiorythmique, mais à vrai dire, c'est une chambre collective, alors que bientôt, nous allons le voir, nous occuperons de la chambre individuelle, qui s'appelle en latin « Cella ». Le second livre qu'on m'a signalé, c'est sur la vie en sanatorium. On m'a signalé un autre roman que La Montagne Magique, je vous le signale, je ne le connais pas. Ce sont Les Captifs de Joseph Kessel, qui a paru vers 1920. Et donc, je reprends l'étude des traits du vivre ensemble. Le trait que nous trouvons maintenant, je l'intitule « Bureaucratie ». Vous avez vu que dans la période sauvage de l'idiorythmie, c'est-à-dire en Égypte, du temps de saint Antoine, les idiorythmiques qui vivaient non loin les uns des autres n'avaient cependant aucune organisation collective. Ils vivaient seuls et les seuls actes communautaires, nous l'avons vu, c'était l'assemblée hebdomadaire, ce qu'on appelait la synaxe, et l'échange direct du travail, à savoir le tressage des nattes et du pain. Et je dirais que cet état sauvage et primitif de l'idiorythmie peut se définir précisément par l'absence totale de bureaucratie. Dans ce système-là, qui n'était pas un système, il n'y avait absolument aucun germe d'un pouvoir étatique, aucun relais réifié, institutionnalisé, chosifié entre l'individu et le microgroupe. Lorsque le cénobitisme est né, comme je l'ai dit plusieurs fois, en Égypte, avec Pacôme, avec Saint Pacôme. Eh bien, quand le cénobitisme est né, c'est-à-dire quand on a groupé les anachorètes dans des couvents, il y a eu une naissance immédiate d'un petit appareil bureaucratique, si embryonnaire soit-il. C'est-à-dire qu'il y a eu des agents exécutifs pour les tâches matérielles. On les appelait des semainiers, parce qu'ils étaient censés changer chaque semaine. Et les semainiers, c'est donc une institution qui existe à la fois dans la règle de Saint Pacôme et plus tard en Occident dans la règle de Saint Benoît. Ce qui fait qu'on pourrait dire que le bureaucratisme, c'est une sorte de divinité vigilante qui guette le moindre groupement idiorythmique et fond sur lui dès qu'il commence à prendre. Par exemple, sur le mont Athos, je n'ai pas donné un terme générique pour les petits groupements idiorythmiques du mont Athos. J'ai parlé des loriotes et des kéliotes, mais il y a un terme générique que je n'ai pas cité, qui est le terme de skit, S-K-I-T-E-S. C'est un mot qui est au masculin ou au féminin selon qu'on le fait venir du russe ou du grec. En fait, il vient du grec, n'est-ce pas? Skit vient du mot grec asketerion, et qui a donné en français, mais le mot est peu connu, un ascétaire, comme on dit un phalanstère ou un monastère. Un ascétaire, c'est-à-dire un lieu où on pratique l'ascèse, et ce mot d'ascétaire, vous le trouvez par exemple chez Huysmans. Donc, les skits, dans les skits, dans les petits agrégats idiorythmiques du mont Athos, nous avons vu qu'il y avait un collège, et ce collège déléguait l'exécution des tâches à des commissaires, exactement comme les semainiers, commissaires qu'on appelle des épitropes. Donc là aussi, le début ou le germe de bureaucratie paraît absolument inévitable. Un autre exemple très différent, parce qu'il n'est pas du tout monastique, vers les années 1920, il y a eu dans le monde occidental des envies de communauté, de communes, de communauté, mais au sens laïque, au sens moderne et laïque. Et où est-ce qu'il y a eu ces envies de communauté vers 1920? Eh bien, si extraordinaire que cela puisse paraître maintenant, en Russie soviétique. En Russie soviétique, dans les premières années après la révolution d'octobre, il y a eu, vous le savez peut-être, une sorte de révolution sexuelle, disons entre guillemets, avec les lois sur le divorce, sur l'avortement, les unions libres, et précisément des tentatives ou des envies, comme je dis, de communautés. Or, ces communautés ont rencontré des difficultés, ou certaines de ces communautés, très petites d'ailleurs, ont rencontré des difficultés qui ont été décrites par Wilhelm Reich. Et Reich décrit une communauté réunie vers 1925. Il s'agissait en Russie, je ne sais pas si c'était à Moscou ou à Leningrad, d'une communauté d'amis qui, au sortir de l'école, ne voulaient pas retourner dans leur famille et s'étaient installés au second étage d'une grande maison. Et tout de suite, il y a eu des problèmes au niveau de la vie quotidienne. Il y a eu des enrayages, disons, du système, de ce petit système communautaire, parce que la vaisselle n'était pas faite, parce qu'il y avait du bruit la nuit, etc. Et ces espèces d'enrayages ont immédiatement provoqué des réunions, des communautaires, des petits meetings, et chacun de ces meetings, bien qu'il réunit fort peu de gens, puisque la communauté était très petite, chacun de ces meetings se résolvait par l'institution d'une commission. La commission est l'issue fatale, et je dirais dérisoire, de tout meeting. Il y a un circuit implacable qui fait qu'une assemblée se résout en commission, une commission se résout en rapport, et un rapport se résout en armoire, dirais-je. Vous savez qu'en particulier dans les organismes de recherche, où on commande souvent des rapports de recherche, des rapports d'enquête, il arrive très souvent que ces rapports, qui ont donné pourtant beaucoup de mal à faire, n'aboutissent absolument à rien. On les enferme dans un placard qu'on appelle délicatement la morgue. La morgue des projets de recherche. Eh bien, là aussi, donc, voilà une petite communauté tout à fait libre qui, immédiatement, n'a pu s'empêcher de créer des commissions. Et dans cette petite communauté, il a fini par y avoir des commissions pour tout. Il y avait une commission du thé, une commission du savon, une commission du dentifrice, une commission du vêtement, etc. Et Reich conclut, « En ce qui concerne l'organisation, la commune prit donc la forme d'un gouvernement étatique, c'est-à-dire d'une administration par commission. » Alors, je cite ce trait parce que la véritable aporie, la véritable impasse créée par la structure idiorhythmique, quand la structure idiorhythmique veut rester idiorhythmique, elle rencontre une sorte d'impasse ou d'aporie. Il y a en communauté des besoins à satisfaire et donc il est normal de préposer des agents à la satisfaction de ces besoins. Mais alors, ou bien on donne à ces agents une sorte de délégation longue de pouvoir, et alors on crée finalement implicitement ce qu'on appelle des postes. Ce sont les commissaires. Et immédiatement, il y a un risque énorme de cristallisation d'un pouvoir réel au niveau de ses agents exécutifs. Ou bien on institue un tour de rotation pour les agents exécutifs, chacun à son tour, n'est-ce pas, comme on faisait pour les semainiers, Mais à ce moment-là, évidemment, les risques de pouvoir sont moindres, mais les risques de désordre sont plus grands. Voilà l'impasse. Je ne saurais, bien entendu, la résoudre moi-même. Voilà pour la bureaucratie. Excuse, mais j'ai très très chaud. J'en viens maintenant à un article un peu plus long que j'ai intitulé, que j'ai mis sous le mot « cause » avec un grand C et des guillemets. Je vais m'expliquer là-dessus. Donc, les idiorythmiques, ce sont des petits groupements peu nombreux et très souples de quelques sujets qui essayent de vivre ensemble, non loin les uns des autres, en préservant chacun ce que j'ai appelé son « rythmos », qui n'est pas exactement son rythme. Alors, la question qui doit être abordée dans cet article, c'est pourquoi ces sujets se groupent-ils? Pourquoi veulent-ils se grouper? Alors, je crois qu'il faut distinguer, dès le départ, entre le motif, la détermination, la causalité, disons, objective, la cause, mais avec une initiale minuscule, le pourquoi, en un seul mot, du groupement, d'une part, et d'autre part, la fin, le but, l'objet, l'idée qui fascine, qui attire, qui oriente, qui mobilise, bref, la cause avec un grand C, ou le pourquoi, en deux mots, ou si vous voulez, le télos, n'est-ce pas? Je distinguerai donc la détermination, la causalité, d'une part, et d'autre part, le télos, c'est-à-dire la fin, l'objectif. Alors ici, ce dont je voudrais parler, c'est du télos. Et si je l'appelle cause, c'est justement pour profiter de l'ambivalence entre la cause avec une initiale minuscule et la cause avec une majuscule, et aussi l'ambivalence entre cause et chose, chose investie, chose obsédante. Disons, l'ambivalence entre la détermination et l'objectif du groupement. Alors, au niveau du christianisme, pourquoi y a-t-il eu des agrégats chrétiens? Quelle est la finalité de la vie en commun pour les chrétiens, surtout des premiers temps? Bon, c'est un dossier énorme, n'est-ce pas? Le télos du groupe est relativement, à première vue, simple. Il s'agit de se grouper parce qu'on arrive mieux à la perfection et à la sainteté. C'est le but unique du chrétien, c'est de devenir saint. Et saint Benoît, qui était étudiant, a fui Rome et s'est retiré à Enfide, du côté de Tibure, pour y pratiquer l'ascétisme. Et là, il y avait une colonie d'ascètes qui était dans le monde, mais réunie précisément par le désir de la perfection. Donc, dans ces cas-là, le télos, c'est-à-dire l'objectif du groupement, c'est la perfection. Mais, bien entendu, ça c'est le télos. Mais la détermination historique est de toute autre nature. Il s'agit de contrôler les sujets, de faire contrôler les sujets par un pouvoir hiérarchisé. S'il y a eu des couvents, le télos, c'est évidemment la perfection, mais la détermination historique, c'est en quelque sorte de mettre la main sur des sujets isolés et de les rassembler pour que le pouvoir les contrôle et les maintienne. Le cénobium, le couvent, a été une manière de contenir le délire religieux qui se développait au niveau des ermites. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ou il y a eu l'envie de petits groupements, c'est-à-dire des organisations à tendance idiorythmique? Quel est le télos du petit groupement, toujours à l'intérieur de la pertinence chrétienne? Là, il faut distinguer, je crois, entre l'Orient et l'Occident. En Orient, il y a ce que nous pouvons appeler l'idiorythmie vraie. Et les raisons économiques de se grouper sont très simples et très minimales. Il s'agit simplement d'un échange minimal de services, n'est-ce pas? On fait de la vannerie et il faut qu'on ne soit pas trop loin les uns des autres pour chaque semaine allait échanger sa vannerie contre du pain. Voilà la détermination économique. Mais le télos du groupement est de nature mystique. Il ne s'agit pas, pour les idiots rythmiques de l'Orient, du premier Orient, non pas tellement d'être parfait, mais, disons, de pratiquer une ascèse mystique, ce qu'on appelle l'hésychasme, c'est-à-dire la pneumatologie byzantine, des respirations, prières, etc. En fait, n'est-ce pas, dans ces petits groupements idiorythmiques de l'Orient, le télos est contemplatif. En Occident, c'est différent. Nous avons déjà vu que l'Occident était rebelle à l'idiorythmie, et le télos contemplatif, qui en Orient est assigné au petit groupement idiorythmique, eh bien, en Occident, ce télos contemplatif est assigné au grand couvent, au couvent. Et cela, c'est une tradition qui est encore en activité, puisque le Concile de Vatican II a distingué ce qu'on appelle des instituts contemplatifs, c'est-à-dire les couvents, et les instituts apostoliques, c'est-à-dire les associations qui ont une action d'apostolat dans le monde et qu'on peut appeler des communautés fraternelles, par exemple, ou des familles spirituelles. Il y a une opposition, entre les moines d'un côté et les frères de l'autre. Et donc, tout ce qui, en Occident, se rangerait plutôt du côté d'une certaine structure idiorythmique, ne le fait pas pour un télos de perfection ou de contemplation, mais pour un télos de charité, pour une pratique de la charité, par exemple, les visitandines, les béguines, nous l'avons vu, les tiers ordres. Et toutes ces organisations para-idiorythmiques sont soumises, peut-être le savez-vous, en général, à une règle qui n'est pas une règle monastique, mais qui est une règle de vie spirituelle fondée sur la charité, qui est la règle de saint Augustin. Il y a dans la littérature un excellent exemple de groupements idiorythmiques plus ou moins soumis implicitement à la règle de saint Augustin, c'est-à-dire un groupement de personnes qui se sont réunies dans une même maison pour exercer d'une façon coordonnée la charité dans ce début du XIXe siècle qu'est le monde de Balzac, car c'est de Balzac que je veux parler, c'est le roman ou le récit qui s'appelle « L'envers de l'histoire contemporaine ». Qui est un récit que personnellement je trouve fascinant, je trouve très beau, et dans lequel on voit un petit groupe de personnes réunies dans une vieille maison près de Notre-Dame, des personnes de bien qui vivent en commun sous la direction d'une dame qui est en quelque sorte le chef spirituel, le gourou, si on peut dire, de ce petit groupe, qui est Madame de la Chanterie. Et donc là, le télos, c'est de faire le bien. Donc en Occident, il y a affinité entre la charité d'une part, comme le télos de charité, et la structure idiorythmique. Voilà pour le champ du christianisme. Maintenant, est-ce qu'il y a, à d'autres groupements, d'autres télos? Dans tout micro-groupement à souci idiorythmique, il semble en effet qu'il y ait toujours un télos, c'est-à-dire un objectif qui est le plus souvent d'ailleurs exprimé par un mot vague, un mot mana, par exemple les communautés, disons, post-hippie ou même hippie qui ont eu lieu notamment en France, et peut-être y en a-t-il encore quelques-unes, bien qu'elles aient la plupart du temps rencontré beaucoup de déboires. Quand on leur demandait, quand on faisait des enquêtes et quand on leur demandait à ces communautés installées dans une ferme, par exemple, communauté de 10 à 20 personnes, pourquoi elles étaient réunies là, eh bien, le télos exprimé l'était d'une façon très vague, c'était le bonheur, c'était pour être heureux. Je vais vous donner l'exemple de deux télos non religieux. Le premier, c'est encore celui du sanatorium et donc de la montagne magique. Je reprends ici la distinction que j'ai esquissée entre détermination, c'est-à-dire causalité, et télos, c'est-à-dire ce qui attire, ce qui est le but fascinant, le but investi. Pourquoi est-ce qu'on mettait en groupe des malades tuberculeux? Évidemment, c'était pour une cause apparemment objective, la défense objective de la société contre la contagion, l'exploitation d'un tabou, d'un isolement des malades, d'une mise à part, et puis, bien sûr, comme pour tout hôpital, l'uniformisation et donc la rentabilité des soins. Ça, donc, si vous voulez, le but objectif, la détermination, c'était de faire guérir, de guérir. Mais je prétends que dans la société sanatoriale, une société en gros idiorythmique, à peu de choses près, l'objet investi, l'objet fascinant, la cause, le télos, et cela on le voit très bien dans la montagne magique, c'est en fait, je dirais, la mort. L'objet fascinant, c'est la mort. D'une part, dans la montagne magique, je l'ai dit, le propos du roman était, paraît-il, explicitement, la fascination de la mort. Deuxièmement, dans le sana, la mort, c'est ce à quoi on pensait. Comme je vous l'ai dit, je crois qu'il faut mettre tout ça au passé, je pense que ça a disparu. Donc la mort, c'est ce à quoi tout le monde pensait, mais dont personne ne parlait. Et c'est bien là un signe de télos, si vous voulez. Il y avait bien entendu un tabou de verbalisation et... La fascination s'exerçait sur un objet, à savoir la mort, qui était, disons, pris dans ce que j'appellerais une forclusion incomplète. La mort était forclose, mais incomplètement, imparfaitement. Ça serait une catégorie d'ailleurs très intéressante à étudier, celle de l'indirect. Dans un sana, il n'y avait pas de signe de la mort, mais il y avait tout de même, de temps en temps, des signes indirects. Et des signes, si je puis dire, ménagers, des signes bêtes. Dans la montagne magique, par exemple, on voit dans les couloirs qui ressemblent aux couloirs d'un grand hôtel, enfin, rien de plus, un sana c'est un grand hôtel au fond, et bien, on voyait tout de même de temps en temps dans les couloirs par terre des récipients d'oxygène à la porte des moribundi, de ceux qui allaient mourir. Et la mort, par conséquent, était présente d'une façon en quelque sorte minimale et ménagère, je répète. Et troisième indice de télos, c'est qu'il y avait dans le sana, et ça a été très bien mis en lumière par Thomas Mann, une curieuse et véridique dialectique entre la maladie, ce qu'on appelait la maladie, c'est-à-dire en fait la mort, la tuberculose, la mort, et les maladies. Les maladies autres que la tuberculose. Et du côté de la vie, c'est en cela que c'est une dialectique subtile, du côté de la vie, du côté de la lutte, du côté des ennuis, il y avait les autres maladies. Et les autres maladies étaient niées. Elles étaient niées comme pas intéressantes. Je cite, ici, dans le sana de la montagne magique, il vaut mieux ne jamais tomber malade, personne ne s'en soucie. Et le héros, Hans Castorp, n'a pas le droit d'être enrhumé. Je dirais que les maladies, en sana, c'est une sorte de processus ardent de vie, et c'est à ce titre-là que les maladies sont niées. Et en face, il y a la maladie, qui est, elle, l'approche contemplative de la mort. Enfin, dernier argument, dans le sanatorium, qu'est-ce qui se produit? Il se produit une vie qui est, disons, la représentation ou l'analogone de l'éternité. De l'éternité. Au début, quand le héros entre en sana, il a un ardent désir d'en sortir. À peine il est entré, il veut déjà en sortir, et donc il commence tout un processus de supputation, de computation des jours, tout un fantasme de sortie. Ben, c'est comme une sorte de service militaire dont malheureusement la quille est incertaine. Ben, et puis, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Le sujet s'installe dans la perpétuité. Et c'est ce qui se passe pour Hans Castorp. Au bout d'un certain temps, malade au sanatorium, il est vraiment dans l'éternité. Et il vit dans l'éternité. Et il est arraché à cette mort fascinante, donnée sous les espèces de la perpétuité, de l'éternité. Il est arraché par la mort réelle, puisque pour le sortir de Sana, si je puis dire, il faut cette chose énorme, la guerre de 1914. Enfin, naturellement, la mort est présente dans la vie sanatoriale, parce qu'il y a dans le groupement des malades la représentation en quelque sorte statistique du risque de mourir. Le voisin peut toujours mourir, et le voisin se peut toujours être, si je puis dire, vous-même. Et donc c'est à ce moment-là que la mort est présente à titre d'implicite. Un autre exemple de Télos, et si j'oppose cela à la mort, ça va faire une opposition très banale, c'est Eros. Quand le groupement se fait diriger avec pour objectif Eros. Le texte qui pourrait servir à cette analyse serait Sade. Les deux couvents qui sont mis en scène par Sade, Sainte-Marie-des-Bois dans Justine et le château de Siling dans les 120 journées de Sodome. Mais je dis tout de suite que ce n'est pas un très bon exemple, c'est un exemple excentrique, car en réalité, dans ces deux lieux sadiens, il y a précisément forclusion de l'idiorythmie. Il n'y a pas de rythmos. Bien sûr, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idiorythmie pour les victimes, mais il n'y en a même pas pour les libertins. Vous savez que les libertins sadiens sont soumis volontairement dès le début par un règlement très minutieux de type monastique dur. Ils sont soumis à des horaires, à des rites et à un rythme absolument implacable. Par conséquent, le lieu sadien a pour modèle non pas du tout des organisations idiorythmiques, mais au contraire des couvents. Le modèle, c'est le cénobium. Je crois cependant qu'il faut retenir cet exemple dans notre dossier, car il conduirait à flairer une sorte de loi. Je dirais que les causes fortes, c'est-à-dire les investissements maniaques, les raisons maniaques de se grouper, les télos forts, conduiraient à des formes conventuelles. Et au contraire, pour qu'il y ait idiorythmie, ou pour qu'il y ait un rêve idiorythmique, il faut qu'il y ait simplement une cause diffuse, vague, incertaine, un télos flottant et un fantasme plutôt qu'une foi. Or, les libertins sadiens, quel est leur paradoxe? Eh bien, c'est que précisément, ils font du fantasme une loi. Ils font du fantasme une loi une foi. Et dès lors, il n'y a plus de rythmos. La liberté, par conséquent, n'est pas liée au sexe, mais à l'indirect de son investissement. Et c'est pour ça que l'idiorythmie laïque, c'est une espèce de quadrature du cercle, car le groupe ne doit pas interdire Eros, mais doit le placer en position indirecte, dans une position qui ne serait pas illégale, mais allégale. Et c'est parce que justement cette position de l'Eros dans les petits groupements, cette mise en indirect de l'Eros est extrêmement difficile, que les échecs des communes modernes ont été si nombreux. C'est les communes en général échouent parce que, disons, on n'arrive pas, si j'ose dire, à bien placer le sexe. On le place ou trop directement, ou on le forclos, et on ne sait pas trouver son lieu indirect, et par conséquent, l'idiorythmie n'est plus possible. Je dirais aussi que le télos de toutes les formes cénobitiques, donc, suppose une foi. Chez Sade, par exemple, il y a une foi dans l'Eros, c'est-à-dire une arrogance. Et le télos qui conduit à des formes conventuelles, c'est le discours du « il va de soi », qui est le discours de la foi. pas la foi, ne dit jamais que ceci, il va de soi. Par exemple, saint Basile de Césarée l'a défini ainsi, « La foi est un assentiment certain, sans hésitation, à ce que nous apprenons comme venant de Dieu, avec la pleine conviction de la vérité de ce qui nous est proclamé et enseigné par la grâce de Dieu. » C'est donc un discours du « il va de soi » ou de l'arrogance. Tandis qu'au contraire, la tentative idiorythmique impliquerait le non-discours, la suspension du discours du « il va de soi », une sorte d'époké, n'est-ce pas, de suspension de jugement. Je voudrais vous signaler, toujours dans cet article, les hypothèses d'analyse d'un savant moderne qui s'appelle Bion, B-I-O-N, qui a traité ce problème du télos, c'est-à-dire des objectifs de groupe, et il l'a traité d'une façon parapsychanalytique, c'est un médecin anglais, le livre a été traduit en français, il s'appelle « Recherche au pluriel sur les petits groupes » et il a paru aux presses universitaires en 1965. Naturellement, il faut bien faire les spécifications. Bion a travaillé comme médecin sur de petits groupes de malades dans un hôpital parapsychiatrique ou psychothérapique qui étaient réunis périodiquement. C'est une sorte de thérapie de groupe. Eh bien, disons que ce que j'ai appelé la cause avec un grand C ou le télos est apparenté à ce que Bion appelle l'hypothèse de base. L'hypothèse de base pour le groupe, c'est l'objectif en vue duquel le groupe se réunit. Alors, pour Bion, il y a trois hypothèses de base. Je vais vous les dire. Et ce qu'il faut bien dire tout de suite, c'est que ces hypothèses ne correspondent pas chacune à un groupe distinct. Ça ne correspond pas à un type de groupe. Mais au contraire, les hypothèses sont mobilisées l'une après l'autre dans un même groupe. Parfois, en une heure, plusieurs hypothèses passent dans le groupe. C'est une espèce de moire d'objectif extrêmement labile et mobile. Voici ces trois hypothèses de base, qui sont donc les objectifs pour lesquels le groupe se réunit. Il y a d'abord ce que Bion appelle l'hypothèse de dépendance. Le groupe se réunit pour être soutenu par un leader, dont il dépend pour sa nourriture, matérielle ou spirituelle, et pour sa protection. Ce leader, d'ailleurs, peut être médiatisé par une idée, ça peut être une idée ou une cause. Et il est certain que certaines causes assurent subsistance et protection, précisément dans les monastères. La seconde hypothèse de base, c'est la plus originale, la plus intéressante, mais la plus difficile à interpréter, c'est ce que Bion appelle l'hypothèse de couplage, le couplage. Bion dit que dans un groupe de 10, 15, 20 ou 30 personnes, dès que deux sujets du groupe se rapprochent, même temporairement, esquissent par exemple une conversation privée ou quelques remarques entre eux, il y a production d'une figure du couple et d'une figure du mariage, quels que soient d'ailleurs les sexes des partenaires de ce rapprochement qui souvent est très fugitif. Le groupe se met en attente d'un événement à venir, et c'est là l'hypothèse de couplage. Et pour cela, il faut, dit-il, que le leader ne soit pas né, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, passe très fugitivement dans le groupe l'idée que doit venir plus tard une personne ou une idée destinée à sauver le groupe. Donc, passage très fugitif d'une espèce d'espoir ou de pulsion messianique. Et l'hypothèse de couplage correspond donc à un télos d'attente. Car le couple qui cristallise cette espèce d'objectif est différent du leader. Ce n'est pas un leader. La troisième hypothèse de base, c'est l'hypothèse d'attaque-fuite. Le groupe se réunit pour lutter contre un danger ou le fuir. Et le leader c'est celui dont les exigences donnent au groupe des occasions de fuite ou d'agression, sinon il n'est pas suivi. Voilà ces trois hypothèses de base. Naturellement, il faut le répéter, le groupe peut changer d'hypothèse de base deux ou trois fois en une heure. Ou au contraire, une hypothèse de base peut durer des mois dans le même groupe. Alors, le classement de Bion, évidemment, il ne s'applique pas directement au vivre ensemble, parce qu'il ne concerne que des groupements provisoires, disons, des réunions, des séances, et puis il suppose une verbalisation. Mais je voudrais tout de même faire remarquer, c'est pour ça que je vous ai cité l'hypothèse de Bion, c'est que ça peut tout de même concerner partiellement, passagèrement, des épisodes d'une vie quotidienne en commun. Par exemple, imaginez un groupe d'amis dans une maison pendant les vacances, ça arrive chaque année mille et mille fois, eh bien, vous pouvez observer, bon, je dirais que chacun de nous peut même le faire dans une soirée d'amis, et essayer de voir en vous-même, dans une soirée d'amis, la mobilité de ces hypothèses de base. Et je suis sûr que vous obtiendrez des observations assez intéressantes. Si vous travaillez, bien sûr, en subtilité. Vous verrez les changements de leader. Vous verrez que dans une même soirée, le leader peut changer, n'est-ce pas ? Vous verrez des effets de couplage. Et vous verrez aussi peut-être des mouvements d'agression et de fuite. Et puis, deuxième intérêt, c'est qu'il y a un espace bien connu qui correspond assez bien au petit groupe de Bion. Ça serait le séminaire de recherche, le séminaire hebdomadaire, bien sûr à supposer qu'il ne comporte pas plus de 10 ou 15 personnes. Et à ce moment-là, vous observez dans un séminaire de recherche les hypothèses de Bion, c'est-à-dire, vous voyez, se poser des problèmes d'agression, de fuite intellectuelle, de complicité, donc de couplage, d'affirmation de chaque sujet à travers sa dépendance à l'égard du leader. Et justement, c'est là où, la réflexion de Bion est extrêmement intéressante, c'est qu'il a très bien montré que le leader, ce qu'il appelle le leader, dans ses hypothèses de base, n'est pas du tout forcément, comme on pourrait le croire, l'enseignant, le professeur. Bah, Bion faisait partie des groupes qu'il a étudiés en tant que médecin, mais très souvent, il n'était pas le leader. Bah, une analyse un peu fine de ces structures montre que le leader n'est pas forcément celui qui est investi institutionnellement d'une sorte d'apparence. Pour moi, en tout cas, c'est de montrer l'extrême labilité et subtilité du leadership. Et donc, c'est une incitation à observer ces phénomènes, une incitation ou une invitation à chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous peut le faire, ce soir même peut-être. Bon, alors tout ceci, en fait, pour poser cette question, est-ce qu'on peut concevoir un petit groupe sans télos? Voilà la grande question. Est-ce qu'on peut concevoir un petit groupe qui investit plus ou moins utopiquement dans une vie quotidienne idiorythmique, c'est-à-dire des gens qui vivent en gros ensemble, mais en essayant de préserver chacun son rythmos? Eh bien, est-ce qu'on peut imaginer qu'un tel groupe est possible sans un télos commun, sans une cause commune, sans un objectif commun? Est-ce qu'un tel groupe est viable? Et dans la mesure, je le répète, où le petit groupe qui est fantasmé dans cette hypothèse est idiorythmique, comme je le fais ici, cela revient à poser cette question décisive. N'y a-t-il pas à la fois affinité entre l'idiorythmie et l'absence de télos? Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas inviabilité d'un groupe sans télos? Autrement dit, pour parler plus simplement, le groupe idiorythmique est-il possible? Alors je ne répondrai pas, sinon je ne ferai pas le cours, je fais le cours pour savoir. Mais disons que pour le moment, j'essaierai tout de même de serrer un peu le problème de cette façon. Deux ou trois remarques. Il peut y avoir pour un groupe un télos, enfin une cause, qui soit le plus vague possible. pas un télos non militant. Toutes les causes ne sont pas des causes militantes. J'ai dit que les communautés hippies ou post-hippies ou para-hippies, quand on les interrogeait, disaient qu'elles se réunissaient pour le bonheur. Mais on peut se réunir aussi pour le plaisir. Le plaisir d'être ensemble, c'est-à-dire la socialité comme fin en soi. Et on m'a rapporté, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, cette citation d'un essayiste du début de notre siècle, qui s'appelait Victor du Bled, B-L-E-D, dans un livre qui s'appelle toujours « La société française du 15e au 20e siècle » chez Didier, en 1900, je cite « Les gens du monde se préoccupent surtout de la socialité. Le monde n'a pour but ni l'amour, ni la famille. Enfin, le monde au sens de mondain, pas de société mondaine. Le monde n'a pour but ni l'amour, ni la famille, ni l'amitié, ni les services à rendre. Il réunit les hommes, il veut qu'ils trouvent du plaisir à cette réunion, il a tout réglé en vue de ce plaisir, le reste ne le regarde pas. » Alors je trouve que c'est une excellente citation qui est très rigoureuse, précisément en ce qu'elle évacue nommément toute cause, tout télos. Ici, on voit que le groupe est défini comme une pure machine à se faire elle-même plaisir. Disons une machine homéostatique. Une machine homéostatique qui s'entretient elle-même. Il y a dans le groupe un circuit fermé de charges et de dépenses. C'est évidemment une vue idyllique de la mondanité. La mondanité serait une machine sans but, sans transformation, qui élaborerait du plaisir à l'état pur, un peu comme les machines sadiennes. Et le plaisir mondain, à ce moment-là, c'est une hypothèse, et même c'est une hypothèse qui a de la grandeur, n'est-ce pas ? C'est une défense de la mondanité qui est loin d'être mesquine, et qui est même peut-être inattaquable. Mais je dirais qu'à ce moment-là, le plaisir mondain, le plaisir d'être ensemble, est inoriginé, il est insubstituable, et il est intransformable. On ne peut pas remonter au-delà. Et l'être ensemble, le plaisir de l'être ensemble à plusieurs, constituerait, je dirais, une sorte de primitif du plaisir, qu'on ne peut pas interpréter. Enfin, ça serait, on ne peut pas remonter au-delà de ce plaisir, on ne peut pas l'analyser ou le décomposer, c'est un primitif du plaisir. Cela dit, je crois que cette espèce de vue homéostatique du groupe est possible utopiquement dans un monde, je dirais, sans classe sociale et sans langage. Donc c'est en cela qu'il est utopique, que c'est une vue utopique. Parce que dès qu'il y a langage, dès qu'il y a énonciation, et si les gens se mettent ensemble, c'est tout de même pour énoncer, dès qu'il y a énonciation, il y a mise en scène ou mise en combat d'un système de place, d'un frottement entre la place d'où l'on parle, la place que l'on suppose à celui qui écoute, la place que l'on veut imposer, la place que l'on suppose à l'autre, etc. C'est-à-dire qu'il y a élaboration immédiate par le langage d'un système des calculs d'énonciation. Je renvoie là certains d'entre vous qui assistent au séminaire du matin, au premier exposé fait par François Flahaut, qui était un exposé théorique très important dans la mesure précisément où il essayait de poser une sorte de linguistique des places de discours. Et dès qu'il y a langage, il y a des places de discours. Et ça, c'est le second aspect de la mondanité, justement. C'est pas le premier aspect, c'est l'aspect utopique. La mondanité serait une espèce de machine homéostatique à faire du plaisir. Mais le second aspect, qui est beaucoup plus connu de nous à travers notre culture, c'est l'aspect qui a été décrit par les moralistes français, je dirais de La Bruyère à Proust, en passant par La Rochefoucauld et bien d'autres, c'est-à-dire que le postulat à ce moment-là, c'est qu'on se réunit, on vit ensemble, non pas pour se faire plaisir, ou non pas pour se faire plaisir à titre primitif, mais on se réunit, on vit ensemble, pour se faire reconnaître. on ne peut être qu'en se faisant reconnaître dans une certaine place. Et je pense notamment à, pour citer un livre que j'ai mis dans notre corpus, mais dont je ne me suis pas encore servi, qui est le roman de Zola, Pobouille. Dans Pobouille, vous savez, ce qui, disons que le sujet du livre, le personnage principal du livre, c'est un immeuble parisien qui est un immeuble bourgeois. Eh bien, dans cet immeuble bourgeois de Pobouille, vous avez un groupement déterminé de personnes. Ce groupement est déterminé, bien sûr, par des contingences, des motifs d'argent, des motifs de classe sociale, comme dans toute location d'appartement, comme dans toute réunion de locataires, il y a une série de hasards qui met des gens ensemble. Ça, c'est la détermination. Mais dès que ces gens sont ensemble dans cet immeuble, il s'élabore immédiatement un télos commun, et c'est pour ça qu'il y a groupe, il y a groupe social, il s'élabore une cause qui est commune à tous ces bourgeois ou para-bourgeois, et qui est de bas en haut de l'immeuble, chacun veut se faire reconnaître comme figure du respectable. C'est ça l'argument du roman. Chacun vit avec les autres pour se faire reconnaître comme figure du respectable. Et vivre ensemble, à ce moment-là, c'est une espèce de cage de miroir factice. D'ailleurs, dans le roman, la cage d'escalier joue un très grand rôle. L'escalier est, disons, le lieu qui offre la plus grande densité de respectabilité. Zola, d'ailleurs, l'a décrit très bien. Et puis, il y a ces portes derrière lesquelles il y a tout l'envers du décor. Alors, je dirais comme troisième remarque que si on revient au fantasme du groupe idiorythmique, ce ne peut être, bien sûr, un fantasme mondain. Vouloir vivre, vouloir un groupement idiorythmique réussi, c'est reprendre la première hypothèse que j'ai dite, c'est-à-dire reprendre le vivre ensemble comme homéostasis, entretien perpétuel du plaisir pur de la socialité. Cependant, dans cette vue fantasmatique et utopique, d'une façon plus philosophique, on se débarrasse de la mondanité, précisément. N'est-ce pas ? Le fantasme rejette la mondanité, et qui est indissociable d'une compétition des places. Il ne peut pas y avoir de mondanité sans compétition des places. Et par conséquent, finalement, quand on veut un groupe idiorythmique réussi, qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut ? Eh bien, on veut un paradoxe. Le projet idiorythmique repose sur un paradoxe, puisqu'il implique la constitution impossible, je dirais surhumaine au sens nietzschéen, d'un groupe dont le télos serait de se détruire perpétuellement comme groupe. Le télos du groupe idiorythmique serait de se détruire perpétuellement comme groupe. Et donc, en termes nietzschéens, le projet serait de faire accomplir au groupement, au vivre ensemble, une sorte de saut au-delà du ressentiment. Voilà pour la cause. Il nous reste 10 minutes. Je vais tout de même commencer, bien qu'il fasse très chaud, je vais commencer le prochain article sans être sûr d'aller jusqu'au bout. Alors, il a pour titre, cet article-là a pour titre « La chambre ». La chambre qui est ici défini comme un espace clos individuel, hein, j'insiste bien, individuel, c'est ce qui correspond au grec kelion, K-E-2-L-I-O-N, ou au latin kella, cella, qui a donné, n'est-ce pas, cellule. Et je crois qu'on peut définir tout de suite la kella, la cella, la chambre individuelle, comme le fondement de l'idiorythmie. Mais pour comprendre la chambre telle que ça propose, il faut partir de plus haut ou de plus grand. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais même remonter très loin pour comprendre ce qu'est une chambre individuelle. Je vais remonter jusqu'au paradis. Et vous allez voir comment. Je vais d'abord parler du lieu total. Je me sers ici, j'indique, n'est-ce pas, le plus souvent possible, enfin, chaque fois que je peux, j'indique les sources dont je me sers. Je vais me servir d'un livre, d'une thèse, qui est exprimée dans un livre d'un architecte anglais qui s'appelle Rick Wirt, R-Y-K-W-E-R-T, Rick Wirt Joseph. Le livre a été traduit en français, il a paru aux éditions du Seuil l'année dernière, et il s'appelle justement « La maison d'Adam au paradis ». En effet, le paradis, c'est ma première proposition, le paradis implique la maison. L'Éden, qu'est-ce que c'est que l'Éden? Bibliquement, l'Éden, c'est une sorte de domaine. Je dirais, c'est une maison de campagne. Dieu a créé Adam et Ève afin qu'ils se tiennent compagnie et qu'ils puissent deviser entre eux et avec lui. N'est-ce pas? On oublie toujours cela. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils puissent parler à trois, tous les trois, ce qui est la formule même du mouvement idiorythmique. Dieu n'a pas créé la conjugalité, il a créé le trio. Okay. Donc qu'ils puissent deviser entre eux et avec lui, quand, je cite, « ils se promenaient dans le jardin à la brise du jour ». La maison, c'est donc une contre, le domaine plutôt, c'est une contre-solitude pour Dieu lui-même. L'Éden, Adam par exemple, est chargé de cultiver et de garder l'Éden, et dans l'Éden, il y a des terrasses, des plates-bandes, des promenades, on se promène, on s'arrête, il y a des réserves, des coupes, des jarres, des resserres, bref, c'est le domaine campagnard, n'est-ce pas ? Et c'est ce que j'appelle un lieu total. Voilà ce que c'est que l'Éden. Alors ensuite, il y a une autre figuration fantasmatique du paradis, c'est la cabane, c'est-à-dire la maison proprement dite, et la cabane, ce que Rick Wirt appelle la cabane d'Adam. Et la thèse de Rick Wirt, c'est que cette cabane d'Adam a joué un rôle nucléaire, un rôle obstiné de cette cabane primitive, a été fantasmée pendant des milliers d'années comme un modèle pour les architectes. Tout architecte, selon Rick Wirt, essaye de refaire la cabane d'Adam au paradis. Ou du moins, une certaine tradition d'architecte, celle qui a surtout pour modèle l'architecture en bois. Et cela, donc, jusqu'au début du Bauhaus, n'est-ce pas, où ce qui était dessiné, fantasmé, postulé et souvent accompli, c'était une demeure en rondin de bois. Ben, je ne veux pas insister sur ces problèmes qui sont des problèmes d'architecture. Je dirais que l'intérêt de la thèse de Rick Wirt, c'est que là, il pose la cabane, c'est-à-dire la maison, selon une détermination qui n'est plus fonctionnelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que pour lui, ce qui prime l'homme, au fond, à élaborer des cabanes ou des maisons, pas tellement ou pas seulement, je n'ose pas dire pas du tout, je n'en sais absolument rien, mais en tout cas, pas tellement ou pas seulement pour s'abriter des intempéries, ce qui est l'hypothèse purement fonctionnelle, mais selon une opération symbolique. Et je crois que c'est en cela que la thèse est importante. L'homme a inventé la maison par une opération symbolique. Il a voulu créer un volume que le sujet, que l'homme, puisse interpréter en fonction de son propre corps. Et la cabane est à la fois corps et monde, et le monde comme projection du corps. Alors là, il y aurait 1000 démonstrations possibles, notamment en ce qui concerne les édifices religieux, n'est-ce pas ? Je me souviens que lorsque j'étais jeune professeur, jeune lecteur, j'étais lecteur une année en Égypte, et j'ai donc visité les temples égyptiens de Karnak, et à ce moment-là, il y avait sur place une sorte, disons, de de personnage ou de philosophe, de théosophe, Svaler de Lubitsch, qui interprétait justement tous les édifices religieux de l'ancienne Égypte en termes ésotériques. Et il avait écrit un livre qui était très passionnant d'ailleurs, qui s'appelait « Le temple dans l'homme ». Et il montrait que tous les temples égyptiens étaient une sorte de figuration diagrammatique du corps humain. Alors il le montrait avec beaucoup de détails. Et naturellement, il était vivement combattu par les archéologues orthodoxes. Alors, je crois que c'est cette direction qu'il faut suivre, à savoir cette mise en rapport de la maison avec une opération du symbolique, comme création du symbolique. Et la maison, d'ailleurs, ne peut pas se comprendre sans relation au sacré. Il faudrait creuser certaines hypothèses qui deviennent maintenant possibles avec les progrès de la paléontologie, de la préhistoire. Là, je renvoie notamment aux travaux admirables de Leroy Gourhan, où il semble bien, enfin autant qu'on puisse assurer des choses dans ce domaine, qu'il y ait une sorte de concomitance dans l'émergence de l'homme à l'humanité. Il y a une concomitance entre la création de l'habitation, c'est-à-dire l'invention de l'habitation, et l'invention du langage. C'est à vérifier. Mais si c'est vrai, ça montrerait que là, il y a eu un seuil de symbolisation qui a saisi plusieurs faits ou plusieurs pratiques apparemment très différentes. Donc la maison ne peut se comprendre que sans relation au sacré. Et vous savez que dans l'écriture, il y a trois formes révélées de la maison, tout au moins de la demeure, n'est-ce pas, du bâtiment qui sert à habiter. Et ces trois formes révélées ont toujours servi de modèle pour les architectes. Ce sont, si vous voulez, des variations plus ou moins expansives de ce mythe de la cabane d'Adam. Voici ces trois formes qu'on trouve dans la Bible, dans l'Écriture. La première forme de maison, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé qui représente l'autarcie absolue, c'est une sorte de résumé, de compendium du monde, une encyclopédie des espèces, qui est évidemment un gage de reproduction. Alors je crois que l'arche de Noé correspond à l'habitation de la famille, avec un grand F au sens patriarcal, et que par là même l'arche de Noé est le modèle de tous les domaines ruraux. Tous les domaines ruraux ont au fond pour modèle implicite l'Arche de Noé. Il y a un roman que j'aime beaucoup, où on voit s'accomplir ce mythe de l'Arche de Noé, c'est l'île mystérieuse de Jules Verne, n'est-ce pas ? Où vous avez les deux coordonnées de l'Arche de Noé, d'une part le sauvetage, n'est-ce pas ? Un groupe de cinq individus sont sauvés sur une île qui fait fonction d'arche, et d'autre part, alors, cette chose merveilleusement décrite par Jules Verne, qui est l'autarcie complète, enfin, l'autarcie dont nous avons parlé l'autre jour. Toutefois, ce groupe de cinq personnes sur l'arche de Noé de l'île mystérieuse, vous le savez, est voué à la catastrophe parce qu'il n'y a pas de reproduction possible. Et il y a un cataclysme final qui disloque l'île, vous vous rappelez, mais justement, les cinq personnes sont finalement sauvées et ils vont alors fonder une véritable colonie en Amérique, dans l'Iowa. Alors, je crois que l'Arche de Noé, c'est la forme issue directement de la cabane d'Adam, et d'ailleurs, l'Arche de Noé était en bois. Et quand Dieu a fait l'Arche de Noé, quand il a ordonné de la faire, il a recommencé la cabane, au fond, mais en plus condensée. Voilà, de toute manière, comme je n'aurai pas fini cet article, vous me permettrez de m'arrêter ici pour aujourd'hui et de vous donner rendez-vous à mercredi prochain.